Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline.
Bon mercredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit le commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, qui déposait ce matin son premier rapport d'activité. Après seulement 4 mois en poste, il nous souligne quelques données paradoxales et on le fait réagir aux propos du chef libéral Marc Tanguay, qui lui a reproché de vouloir nous ramener aux analyses du vote ethnique de Jacques Parizeau, rien de moins. Mais d'abord, on revient sur une annulation controversée. La semaine dernière, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, annonçait qu'elle avait forcé l'annulation d'un colloque qui devait avoir lieu au Centre des congrès de Québec parce que, selon elle, c'était un rassemblement anti-droit à l'avortement. On en parle avec une ancienne ministre de la Condition féminine, Christine Saint-Pierre. Bonjour.
Bonjour.
Donc, j'ai voulu vous inviter, Christine, parce que j'ai vu un de vos tweets ce matin, là, on est mardi. Vous réagissiez à une chronique de Mathieu Boccoté qui qualifiait la ministre Proulx d'autoritaire. Et là, vous écriviez « Je ne suis pas toujours d'accord avec Mathieu Boccoté, mais la question de la liberté d'expression qu'il soulève est très pertinente. » Expliquez-nous.
Tout d'abord, je veux préciser que je suis totalement en faveur du droit à l'avortement. Alors,
d'ambiguïté
là-dessus. Pas d'ambiguïté. Je ne veux pas semer d'inquiétude là-dessus. C'est sur la question de la liberté d'expression. Ça m'inquiète un peu de voir qu'on puisse empêcher ou annuler, forcer l'annulation d'un événement parce qu'on n'est pas d'accord avec le sujet abordé. On n'est pas d'accord avec les idées de l'organisme qui désirait aller au Centre des congrès. Et pour moi, c'est fondamental dans une société libre et démocratique, la liberté d'expression, pouvoir discuter, pouvoir échanger. C'est clair qu'il y a des balises. Là, on n'ira pas, on ne permettrait pas des propos haineux, des propos racistes.
Mais non.
Mais quand il s'agit de débattre d'idées, puis si on n'est pas d'accord avec les idées de l'autre, vouloir empêcher que ces idées-là circulent, ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète aussi de voir que ça provient de quelqu'un qui a été dans les médias une grande partie de sa vie.
Ben oui, c'est vrai. Ben oui.
C'est ce que j'aime beaucoup et que pour qui j'ai énormément de respect. J'ai beaucoup de respect aussi pour Martine Biron, ministre de la Condition féminine, qui appuyait sa collègue. Mais lorsqu'on vit dans une société libre et démocratique comme la nôtre, bien, je pense qu'il faut aussi laisser la place au débat. C'est la raison pour laquelle j'étais en accord ce matin avec Mathieu Boccoté. Je ne suis pas toujours en accord avec lui.
Non, je peux m'imaginer.
Mais je ne voudrais pas empêcher Mathieu Boccoté de s'exprimer. Je ne voudrais pas qu'il n'ait plus de chronique parce que je ne suis pas d'accord avec une grande partie de ses idées.
Donc, ça fait partie d'une sorte de culture de l'annulation que d'annuler comme ça un colloque parce que, sous prétexte, là, que les gens n'ont pas les bonnes idées.
Oui, ça peut aller plus loin. Qui va déterminer qu'est-ce qu'on peut recevoir, qui on peut recevoir au centre, au centre des congrès ou dans des rassemblements? Qui va décider des critères? Comment on délimite ça? Est-ce que c'est à la faveur du jour, à la faveur de l'opinion publique du moment? C'est ça qui est inquiétant. Je pense qu'il faut laisser la place au débat. Il faut s'assurer qu'on puisse faire valoir nos idées nous-mêmes aussi lorsqu'on veut faire valoir un point de vue. Mais pour ce qui est de l'avortement, il faut aussi s'assurer que l'avortement soit accessible au Québec.
Oui.
Faire en sorte qu'on puisse avoir accès à la contraception gratuite. Dans mon esprit à moi, ça devrait être gratuit également. Alors, il y a des éléments sur lesquels, évidemment, on est tout à fait d'accord. Mais quand on arrive à un moment, à un certain point, et quand on arrive à dire qu'on va à empêcher un événement parce qu'on n'est pas d'accord avec les idées, ces gens-là commettent pas d'actes criminels à ce qu'ils sachent. Et j'aimerais bien qu'on vive dans une société où on laisse les gens s'exprimer librement.
Caroline Proulx, pardon, allez-y.
Je suis allée voir sur leur site, ils indiquent que l'événement a toujours lieu, mais ils indiquent qu'ils vont changer d'endroit. Ils n'indiquent pas à quel endroit ils vont aller. Mais quand on va sur le site et qu'on regarde les offres pour louer les chambres d'hôtel, ils ont réservé un bloc de chambres au Hilton, mais ils ont aussi réservé un bloc de chambres à l'Université Laval. Alors, est-ce qu'on va demander à l'Université Laval de ne pas louer de chambre à ces gens qui vont assister à ce rassemblement-là? Est-ce qu'on va aller jusque-là? C'est ça l'inquiétude que j'ai. On s'est battu, on a été terriblement ému par ce qui est arrivé en France à Charlie Hebdo. Parce qu'on veut que l'expression, la liberté de presse, la liberté d'expression soit évidemment répandue. Et c'est la Déclaration universelle des droits de la personne qui dit qu'un individu doit avoir le droit d'exprimer ses idées librement dans une société libre et démocratique.
L'argument de Mme Proulx, c'était que ça contrevenait aux valeurs québécoises, étant donné que c'était une société d'État, le centre des congrès, ben ils peuvent se trouver un endroit ailleurs, ces gens-là. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette défense?
Alors, c'est clair que c'est son opinion c'est l'opinion qu'elle a émise, mais moi je demande à voir quels sont les autres événements qui seront interdits soit au Parc Olympique, soit au Palais des Congrès à Montréal ou au Centre des Congrès. Quels sont les autres événements qu'on va interdire? Par exemple, si les chevaliers de Colomb veulent se réunir, on va leur dire non, vous ne pourrez pas louer des espaces au Centre des Congrès. C'est un événement sur des idées politiques qui vont à l'encontre des idées des politiques de la CAQ, on va dire non, vous n'aurez pas le droit de vous réunir. C'est là que j'ai un problème. Mm-hmm. J'ai un problème sur la ça revient toujours, c'est la liberté d'expression, la liberté d'échanger des idées, c'est la liberté de pouvoir s'exprimer dans une société libre et démocratique sans évidemment aller vers le racisme ou les propos haineux. Alors c'est ça, je trouve qu'on est allé un peu vite. Et l'événement était planifié.
Oui.
Il y a quelques jours de l'événement à des gens qui planifiaient un événement avec 1000 personnes. Ils attendent 1000 personnes, leur disent, ben là, vous allez vous trouver un autre endroit. C'est bien clair que ça va être difficile pour eux de se trouver un autre endroit.
Oui.
Mais je trouve que il y a une marge, là. Il y a quelque chose, à mon avis, qui est dangereux dans ce genre de décision-là. De la part du gouvernement.
Il y a une sorte de crispation actuellement.
Je respecte les idées de Mme Proulx.
Ben oui, je sais que vous êtes d'accord avec elle sur la question de l'avortement, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas actuellement une sorte de crispation autour de la défense de ce droit-là, parce qu'on voit aux États-Unis une progression des idées anti-avortement qui sont cristallisées même dans des lois
des choses bien inquiétantes chez nos voisins du Sud, ça c'est clair. Mais les voisins du Sud, ce qui se passe aux États-Unis, puis ce qui se passe au Canada, on n'est pas, à mon avis, sur la même planète. On regarde, évidemment, au Canada, il y a eu des tentatives à Ottawa de projets de loi privés qui ont été déposés, mais ils ont toujours été battus. La société québécoise et la société canadienne vont toujours défendre, à mon avis, le droit à l'avortement. Et je pense que ça, c'est comme entrer dans nos quittants. Mais il va y avoir des gens qui vont dire, ben nous, on n'est pas d'accord, mais ces gens-là, ils n'adoptent pas de loi, ils ne sont pas élus, on les voit s'exprimer. C'est un mouvement religieux aussi, entre autres, là, qui veut se réunir à Québec. On ne peut pas empêcher la liberté de religion non plus. Alors, oui, il y a des choses qui se passent aux États-Unis qui nous surprennent et qui nous jettent à terre. Puis des fois, je me dis dans quelle société ils vivent.
Mais quand il y a une montée comme ça des idées anti-droit à l'avortement, certains concluent que le temps n'est plus à la discussion, mais il faut choisir son camp. Et je lisais, par exemple, Chantal Guy dans la presse qui disait carrément, écoutez ça, « Personnellement, je refuserais d'aller discuter avec quelqu'un qui croit que les femmes n'ont pas le droit de décider pour leur corps en matière de procréation, de peur de lui mettre mon poing sur la gueule avant même qu'il s'ouvre la trappe. » Ça, c'est, elle écrivait ça le 23 avril dernier dans la presse. Est-ce que c'est pas risqué, ça? Est-ce que ça participe pas de la même espèce de crispation ou de réaction excessive de Caroline Proulx?
Ben, je pense que ce commentaire-là va trop loin, à mon avis. Je pense qu'on peut discuter, on peut s'asseoir, on peut argumenter. Et moi, j'aime le débat. J'aime les gens qui s'expriment intelligemment. J'aime les gens qui ont des arguments qui vont me convaincre. J'aime ça écouter des débats. Puis j'aime que la société puisse avoir des gens qui vont débattre. Mais de parler de poing sa gueule, on parle de violence.
Ben oui!
J'ai milité en faveur de l'avortement depuis que je suis adolescente. Là, ça fait plus de 50 ans. Là. Jamais, je voudrais qu'on revienne aux broches à tricoter. Là.
Ben non.
Puis, jamais, je voudrais que. Mais c'est clair que je pense qu'on n'est pas rendu à un moment où on doit se dire qu'on refuserait de parler à quelqu'un qui ne partage pas les mêmes opinions que nous. C'est ça qui est, à mon avis, risqué. Et je pense que Mathieu Bock-Côté met le doigt dessus ce matin dans son papier avec la question de la liberté d'expression, sur la liberté d'expression en général, et sur la question aussi, quels sont les principes fondamentaux
ouais.
auxquels on fait référence.
Ouais.
Moi, j'ai pas vu qui va les déterminer, ces principes fondamentaux-là.
Ben c'est ça, les valeurs québécoises. Qu'est-ce que c'est? Quelle valeur québécoise peut nous autoriser à soit empêcher un congrès de se tenir ou de mettre un poing sur la gueule à cette personne qui supposément ne respecterait pas ces valeurs?
Personnellement, je pense que non, mais je pense que peut-être aussi que les tribunaux vont devoir un jour se prononcer là-dessus. Je ne sais pas si le groupement va faire affaire avec les tribunaux pour aller éclaircir la situation, mais il reste que j'ai été surprise, puis je me dis, si j'avais été dans la même position, quelle aurait été ma décision? J'essaie de comprendre.
Ouais.
Et des fois, tu dis, il y a des décisions qui se prennent rapidement. Il y a des réflexions qui arrivent vite. Tu veux aussi être certaine que ton message passe, mais est-ce que c'est au prix de la liberté d'expression?
Parce que comme ministre de la condition,
la liberté d'association.
Ben oui. Comme ministre de la condition féminine, c'est vrai qu'il doit avoir d'énormes pressions pour dire ce congrès-là se tient. Là, il faut faire quelque chose. En même temps, si ça se sait que la ministre n'a rien fait pour empêcher un tel congrès, peut-être qu'elle en subirait aussi qu'elle subirait des critiques. Donc, ça doit être une situation difficile. Je me mets à sa place. Je veux pas la condamner trop facilement non plus.
Moi non plus. Ce que je dis, c'est qu'il y a un danger sur la question de la liberté d'expression. Et je pense qu'aussi, le ministre ou le gouvernement peut dire « Nous sommes en faveur du droit à l'avortement. Nous ne dérogerons pas à cette idée-là. » Mais de là à empêcher que des gens se réunissent qui sont pas d'accord avec cette idée-là se réunissent, c'est là que peut-être une pente glissante. Et c'est pour ça que dans le tweet de ce matin, j'ai dit que j'étais d'accord avec le propos. Autoritaire, j'aime pas beaucoup le mot. Là, j'utilise le mot autoritaire, je trouve que c'est un peu fort.
Et ennemi de la liberté d'expression.
Ouais. Là, il met le doigt vraiment sur quelque chose, sur la question, à mon avis, de la liberté d'expression.
Merci beaucoup, Christine Saint-Pierre.
Ça me fait plaisir. Ancienne, plaisir de parler.
Tu as plaisir partagé, hein? Ancienne députée de l'Acadie et ancienne ministre de la condition féminine et bien d'autres choses. On se reparle. Au revoir.
Merci, au revoir.
Antoine Robitaille, le véritable troisième lien. Le Salon Bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
Il y a plein de choses surprenantes dans le premier rapport annuel du commissaire à la langue française qui a été déposé ce matin. Il est avec nous en studio pour en discuter. Bonjour, Benoît Dubreuil.
Bonjour, Antoine Robitaille.
Donc, premier rapport annuel, vous avez été nommé en février. On y découvre, entre autres, que les personnes qui n'ont jamais mis les pieds au Québec avant d'immigrer utilisent davantage le français au travail que ceux qui ont travaillé ou étudié avant d'être admis. Comment on explique ça?
Oui, ben, c'est une statistique intéressante. Je pense qu'elle n'avait pas été sortie encore. Essentiellement, vous savez, les gens qui sont admis à l'immigration au Québec, il y en a qui, effectivement, n'ont jamais séjourné. Il y en a d'autres qui ont été ici comme étudiants. Il y en a qui ont été ici comme travailleurs.
Oui.
Et ce que j'ai constaté en fouillant les données, et je vous avoue que ça m'a quand même surpris, c'est qu'effectivement, les gens qui ont immigré au Québec sans avoir été étudiants ou sans avoir été travailleurs et au Québec préalablement, utilisent davantage le français, environ 10 points d'écart. Donc, je trouve que c'est intéressant. Ça complexifie un peu aussi la discussion qu'on a quand on dit ben,
oui.
Les gens sont au Québec déjà depuis un certain temps. Ça veut dire qu'ils vont avoir appris le français. Peut-être, oui, les gens apprennent peut-être le français, mais ensuite, on sait au Québec qu'il y a une compétition, aussi une concurrence dans plusieurs
oui.
domaines de la vie où on peut utiliser le français ou l'anglais. Donc, le fait d'être ici depuis un certain temps n'offre pas nécessairement une garantie non plus que les gens vont travailler en français. Je pense qu'il y a un phénomène aussi qui est lié au système de pointage de l'immigration qui fait en sorte que les gens qui sont à l'extérieur du Québec, c'est difficile pour eux d'être admis à l'immigration s'ils n'ont pas déjà une très bonne connaissance du français.
Oui.
Alors que quand on est au Québec depuis un certain temps, si on a un diplôme québécois ou si on a occupé un emploi au Québec, ça permet d'avoir plus de points sans nécessairement parler français.
Ah,
donc,
oui.
Je pense que c'est un peu ce qu'il y a derrière ça.
Est-ce qu'il y a des politiques que vous pourriez proposer pour modifier ça ou êtes-vous là pour ça? Je me souviens plus là, dans vos attributions de commissaire.
Effectivement, le mandat de commissaire implique de faire un suivi de la situation linguistique, mais offre aussi non seulement la possibilité, mais l'obligation de proposer des mesures pour améliorer la situation linguistique.
Ah oui, OK.
Donc, évidemment, on est sur un sujet là, qui est vraiment à l'ordre du jour en ce moment avec la consultation sur la planification de l'immigration qui
ben
s'en
oui.
vient et tout. Donc,
même si votre rapport a été un peu éclipsé par les feux de forêt, c'est le cas de le dire.
Oui, ouais, malheureusement.
Mais c'est quand même un sujet qui va revenir, ça c'est sûr. Le français, c'est très important actuellement.
Absolument. Mais pour moi, vous savez, c'est un premier rapport annuel. Donc, j'ai été nommé, comme vous l'avez mentionné, début février.
Ben
je
oui.
suis entré en fonction début mars. Donc, je n'ai pas eu le temps de lancer de grands chantiers là, pour faire des recherches vraiment très originales. Par contre, quand j'ai été nommé, il y a plusieurs personnes qui m'ont questionné sur ma vision de la situation, quelle était ma lecture, quels étaient les constats que je faisais quant à la place du français, et beaucoup en lien avec l'immigration, parce que c'est une question qui est à l'ordre du jour aujourd'hui.
Oui.
Donc, pour moi, ce rapport-là, c'était plutôt une façon de mettre ensemble, de regrouper, en fait, un certain nombre de constats pour que les gens qui s'intéressent à ma fonction puissent aller voir, écouter qu'est-ce qu'il pense, lui, en fait, de la situation du français. Et j'établis justement un certain nombre de constats là, dans le rapport que je vous invite là, à consulter.
Ben oui, puis celui dont je parlais, donc que les gens qui n'ont pas séjourné au Québec utilisent plus le français. Ça prouve que c'est important de travailler sur le français en amont, donc avant l'arrivée aussi.
Oui, en amont et sur
même
le profil.
Même s'il y a le phénomène des points que vous avez expliqué, il faut que le gouvernement, et c'est un peu ce qu'il annonçait récemment, là, que l'immigration doit être de plus en plus francophone. Même à un moment donné, on a parlé de 100%.
Oui, c'est clair que je le montre aussi dans le rapport, il y a encore des progrès à accomplir.
Hein? Ouais.
Donc, dans la population immigrante aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès. Là. Je pense que c'est environ 60 % des immigrants qui fonctionnent de manière prédominante en français. Puis, il y en a peut-être un autre 20 % qui utilisent le français là, à différents degrés dans la vie de tous les jours. Donc, on ne part pas de zéro.
Non.
Par contre, dans la population non-immigrante, on est beaucoup plus haut. On est plus autour de 80-85 %. Donc, si on veut évidemment stabiliser la situation du français à long terme, il faut refermer cet écart-là. Il faut que l'utilisation du français dans la population immigrante rejoigne l'état qu'on a dans le
oui.
reste de la population. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à travailler, là.
Sur le numérique, on sait à quel point c'est important, le numérique, c'est en train de transformer l'équilibre linguistique mondial, je dirais, donnant beaucoup d'importance à l'anglais. Vous constatez à la fin de votre rapport que l'apparition des appareils numériques dans nos vies a complètement bouleversé les façons d'interagir. Vous soulignez qu'il conviendrait d'étudier l'impact de ce bouleversement sur nos habitudes linguistiques. Donc, ce travail n'a pas encore été réalisé, mais avez-vous comme une hypothèse? Et est-ce qu'il y a d'autres sociétés qui peuvent nous inspirer?
Mais c'est sûr que ce qui est dommage en ce moment, c'est qu'on n'a pas encore vraiment beaucoup de bonnes données sur la façon dont les gens utilisent le français et les autres langues dans le domaine numérique. Donc ça, okay. À mon avis, c'est vraiment une lacune qu'il va falloir combler assez rapidement parce que les phénomènes en ce moment se changent, la situation change extrêmement rapidement. Vous le voyez sans doute autour de vous.
Oui.
C'est clair, il y a beaucoup de parents québécois aujourd'hui qui sont surpris tout à coup de constater à quel point leurs enfants sont bons en anglais.
Oui.
Moi, c'est mon cas aussi.
Oui.
Les jeunes peuvent passer des fois des heures en immersion et tout à coup, on s'en va en vacances aux États-Unis puis on constate qu'ils parlent très, très bien anglais. Donc, ça change parce qu'évidemment, ça va affecter, ça va influencer leur consommation de produits culturels. Ensuite, ça va changer aussi leur rapport à la langue quand ils vont être dans un contexte où ils vont avoir le choix entre le français et l'anglais. C'est encore trop tôt, je pense, pour vraiment, là, je ne veux pas avoir une vision catastrophiste, en fait, de ça, mais certainement, c'est maintenant qu'il faut s'y intéresser parce que les changements, ils sont en cours, ils ont déjà eu lieu, là, je pense, pour plusieurs d'entre eux.
Comment on peut mesurer ça, l'effet classe d'immersion continuelle?
Oui.
À cause du numérique?
Il y a beaucoup d'enquêtes qui existent. C'est simplement, je pense que les enquêtes n'ont pas porté de façon très explicite là-dessus.
OK.
Donc, on a déjà des petites informations qui ressortent ici et là, mais je pense qu'il va falloir qu'on se donne des enquêtes plus fréquentes. C'est sûr qu'une autre façon de le voir aussi, ce serait d'avoir accès aux données des géants du web.
Ouais,
parce que eux, c'est eux qui connaissent la langue qu'on utilise au Québec.
Ils savent exactement.
Ils connaissent beaucoup plus que le gouvernement du Québec dans quelle langue les gens naviguent sur les grandes plateformes. Et donc, si on était capable d'avoir accès à ces données-là, évidemment, on saurait beaucoup plus.
Vous avez beaucoup de pouvoir, vous, le commissaire?
Oui.
Pourriez-vous envoyer une injonction à Google ou à...
Non, je pense pas, mais par contre, je pourrais proposer au gouvernement de le faire ou du moins, en fait, de demander. Mais je pense que c'est un débat aussi qui dépasse le Québec. Hein. Il y a toutes sortes de discussions aussi à l'échelle internationale,
ben oui.
Avec l'UNESCO aussi qui s'intéresse à la question. Sur la façon dont, justement, le numérique modifie non pas seulement l'usage des langues, mais aussi le rapport à la culture et, incidemment, le rapport avec l'espace public et la démocratie. Donc, il y a là tout un nœud de questions qui sont extrêmement importantes là, pour l'avenir du français, mais aussi de la société en général.
La classe d'immersion numérique continuelle en anglais, moi, personnellement, c'est un argument pour appliquer la loi 101 au cégep et peut-être à une partie de l'enseignement supérieur. Si on va au bout de votre raisonnement, est-ce que c'est pas là qu'on aboutit?
Écoutez, c'est sûr, moi, ce que je pense que les chiffres actuels montrent, là, c'est qu'il faut, il faut améliorer les choses d'une façon ou d'une autre. Là. Donc, évidemment, les usages linguistiques, moi, c'est ce que j'appelle des effets cumulatifs. Hein, donc, l'enseignement y est pour beaucoup, l'enseignement supérieur, le numérique y est pour beaucoup, la composition de l'immigration aussi y est pour beaucoup,
oui.
La francisation qui va avoir lieu ou non après l'arrivée y est pour beaucoup. Donc, c'est sûr que quand on additionne les effets, ben, on a un portrait qui est celui que je présente. Quand vient le temps de choisir les solutions, de prioriser les mesures qu'on veut mettre en place, bien là, il y a un débat politique aussi, puis il y a un débat de valeur à avoir. Qu'est-ce qu'on veut prioriser? Hein? Puis
ouais.
Qu'est-ce qu'on peut prioriser aussi? Parce qu'il y a des domaines dans lesquels on ne peut pas intervenir, parce qu'il y a la liberté individuelle aussi sur laquelle on ne peut pas empiéter.
Ouais.
Donc, à mon avis, il y a plusieurs actions qui peuvent être mises en place, mais c'est sûr qu'il faut, au moins faire quelque chose. Il faut au moins travailler sur certains des grands axes que je viens de mentionner, parce que sinon, vraiment, on a un problème là, qui existe et qui va continuer de s'approfondir.
Il y a le gouvernement qui a formé le GALF, le groupe d'action sur la langue française. Quel est votre rapport avec ce groupe-là? Mm-hmm. Les avez-vous rencontrés? Est-ce que...
Non, mais peut-être pour préciser...
C'est un groupe de ministres, là?
Oui, voilà, exactement.
Je vais préciser, oui.
Peut-être pour préciser pour vos auditeurs, le poste de commissaire à la langue française n'est pas un poste qui relève du gouvernement.
Ah,
donc,
non.
Moi, j'ai été nommé par l'Assemblée nationale.
Oui.
Je remets mes rapports à l'Assemblée nationale, qui est évidemment indépendante du gouvernement. Donc, je ne me rapporte pas à un ministre.
Vous êtes un peu comme un vérificateur général,
oui,
là, de la langue, là,
comme un peu comme un vérificateur général. Et donc, c'est ça, je vais rester indépendant, évidemment, là, de ce groupe de ministres. Je vais suivre attentivement leurs travaux et je vais essayer d'en offrir une lecture aussi rigoureuse et indépendante que possible, à la fois pour le public et pour l'ensemble des parlementaires.
Vous allez réagir au rapport du GALF? Du groupe d'action.
Est-ce qu'ils vont publier un rapport? Ils vont publier un plan d'action, oui. je crois.
Oui.
Donc, moi, c'est clair que je vais examiner les mesures qu'ils vont proposer. Je ne veux pas nécessairement être en réaction immédiate à ce que le gouvernement va faire. Moi, je ne suis pas là pour commenter nécessairement là, l'actualité.
Non, c'est ça.
Oui, vraiment.
À moins que ce soit un sujet que vous avez fouillé dans un rapport.
Exactement. Si on m'interpelle directement, si j'ai un sujet, si j'ai vraiment fait une recherche précédente qui permet d'éclairer le débat public, là, à ce moment-là, je vais intervenir. Mais je dois être prudent, justement, pour ne pas m'immiscer non plus dans les débats qui sont un peu plus politiques. Et quand il y a des choses qui sont présentées, des propositions qui sont faites par le gouvernement, je dois prendre le temps de les étudier et arriver avec une analyse et une étude qui va être plus posée, objective, avec une certaine distance aussi.
Parlant du débat politique, il y a le chef par intérim du Parti libéral qui a parlé de vous au Conseil général du PLQ à Victoriaville. Hein. Il a soutenu que le commissaire à la langue qui veut nous ramener dans un débat en lien avec le vote ethnique, il a dit ça parce que dans votre livre co-écrit, là, que vous avez co-signé, il y avait un passage où, justement, on parlait du comportement électoral des immigrants et ça, il trouvait que ça nous ramenait au vote ethnique. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre?
Je vous dirais que ce n'est pas à moi de répondre. Puis en lien avec ce que j'ai mentionné précédemment, c'est étant nommé par l'Assemblée nationale, moi, je vois que j'ai une obligation de travailler pour l'ensemble des partis politiques. Donc, pour mon mandat qui va durer 7 ans, je compte m'imposer une certaine réserve aussi quand les politiciens vont faire des commentaires plus de cette nature-là. Je vais les laisser avoir les discussions entre eux, mais moi, je pense que c'est important dans le poste que j'occupe de conserver une certaine distance. Donc, les documents sont là, ils sont publics, les gens peuvent les consulter puis se faire leur propre
parler du livre,
opinion,
là,
absolument.
Oui, notamment.
Les déclarations des uns et des autres, je pense pas que c'est à moi là, de d'entrer dans ces débats-là.
Mm-hmm. Ouais. Puis, pour les prochains mois, votre programme, donnez-moi 2-3 éléments de votre programme
de
travail.
Oui, c'est ça. Beaucoup, beaucoup de paperasse, beaucoup
ah oui,
de ressources humaines, technologie d'information.
Ah oui, c'est vrai, il faut que vous embauchiez du monde, vous, là.
Absolument, c'est okay. Ça. Donc, on est là-dedans, on travaille fort. J'ai des personnes déjà qui se sont jointes à moi et on travaille à mettre en place une organisation. Donc, ça va être encore
budget
ça.
Budget de 2 millions?
2,2 millions, en fait, de budget, là, qui a été voté par le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est pour le volet plus organisationnel. C'est sûr qu'il y a d'autres thèmes aussi qui vont m'intéresser dans les prochains mois. Évidemment, il y a une consultation qui s'en vient sur la planification de l'immigration. C'est dans l'air. Ça m'intéresse énormément.
Oui,
évidemment, les décisions qui vont être prises, les orientations qui vont être données vont avoir un impact sur la situation du français. D'autres questions qui m'intéressent beaucoup aussi, toute la question du français dans la science.
Oui.
Il y a en ce moment beaucoup d'intérêt qui est porté à cette question-là au Québec et à l'échelle internationale. Donc, très certainement, je vais m'y intéresser aussi. Vous l'avez mentionné, la question du numérique.
Oui.
Aussi. Je ne sais pas encore exactement comment me positionner dans ce débat-là, mais je vais essayer de trouver un angle là, où je peux avoir une valeur ajoutée et dire quelque chose là, d'intéressant parce que c'est au centre.
C'est votre rôle.
C'est mon rôle et puis c'est au centre, en fait, en ce moment, au centre de ce qui compte.
Très bien. Merci beaucoup, Benoît Dubreuil.
Merci beaucoup de l'invitation.
Benoît Dubreuil est commissaire à la langue française. Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux, s'il vous plaît. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.